La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Apothem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Eh bien, bienvenue sur 50 à Galaxie, le podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Yael Benayoun, qui est diplômée en philosophie politique et en sciences sociales, qui conseille les organisations, qui souhaite se doter d'outils d'observation et de compréhension des réalités sociales. Et Irinée Regnault, qui est diplômée en sciences politiques, en affaires internationales, qui est consultante en innovation et en transformation numérique. Donc, ils ont cofondé le Mouton Numérique. Irinée est aussi auteur du blog Mais où va le web, super blog d'ailleurs, ça change d'influencia et de l'ADN, voilà, c'est déjà dit en passant. Et l'idée, bah, c'est que vous nous présentiez un petit peu, on est fiers de les recevoir parce que à l'occasion de la sortie de leur livre qui s'appelle Technologie partout, démocratie nulle part. Je vais vous laisser vous présenter et puis après on va vous poser quelques questions sur ces sujets de fond qui sont passionnants. Yael.
Ok, et bah, alors peut-être rapidement, puisque les présentations ont déjà été faites sur le fond, le Mouton Numérique, donc en fait on est une jeune association, on s'est créé maintenant il y a un petit peu plus de 3 ans, pour en fait très simplement essayer de faire entrer dans le débat public un certain recul et un certain regard critique sur le numérique et les nouvelles technologies, en mettant en lumière leurs enjeux environnementaux, sociaux et politiques. Voilà, c'était un peu le principe de base. Et donc, très concrètement, en fait, on fait principalement des événements, des débats, des rencontres littéraires. On a fait aussi des petits formats podcast. Et là, on est en train de s'orienter de plus en plus vers plutôt, j'allais dire, des réflexions un peu de fond pour creuser les sujets. Donc, on a fait un premier recensement un peu pendant la période du Covid sur les dispositifs sécuritaires qui ont été déployés justement pendant le confinement. On a fait aussi quelque chose de similaire sur la continuité pédagogique. Bref, et en fait, là, donc, on est plutôt sur des sujets, j'allais dire, plus de fond et de long terme, un peu de veille sur ces questions-là.
Super. Et Irinée, alors, qui es-tu?
Bah, écoute, je suis le colistier de Yael. Effectivement, moi, ça fait 6 ans maintenant que j'écris sur Mais où va le web. Beaucoup d'articles, plusieurs centaines d'articles sur les implications sociales du numérique. Alors c'est des articles qui reprennent en grande partie, je dirais, l'état de la recherche en sciences sociales sur ces questions. Donc, ce n'est pas forcément une production. Moi, je ne suis pas chercheur, hein, je suis blogueur. Donc, j'essaye de donner à voir ces sujets-là. Donc, c'est né avant le Mouton Numérique, ça l'a nourri forcément. Après, le Mouton Numérique, c'est une aventure collective. Donc, c'est un projet d'abord à deux, puis ensuite maintenant
une centaine de
personnes dans l'association. Bon, les deux sont forcément liés puisque le blog est lu dans les milieux qui s'interrogent sur le numérique. Et à côté de ça, effectivement, moi je suis consultant en transformation. C'est deux mondes qui sont un petit peu séparés. Moi je parle ici au titre de fondateur du Mouton Numérique. Ça n'empêche pas que je connais à peu près ce qu'on appelle la transition numérique pour la pratiquer moi-même avec beaucoup d'attention. Donc, de ce point de vue-là, c'est à peu près de quoi je parle. Voilà.
Bon, alors, justement, parce que...
De quoi on parle ?
Chez 50A, on est absolument passionnés. Bah, d'à côté, on aime à dire qu'on parle aussi bien des bots du CAC 40 qu'à des hackers. On adore la culture de l'open source, l'indie web, on a organisé beaucoup de barcamps. Et comme ça, en préparant mes notes, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle était belle, la déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow le 8 février 1996. Ça vous parle? On en est loin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement? On a l'impression que les GAFA, les Natu et autres BATX sont un peu tout emportés sur leur passage. Est-ce qu'ils ont gagné ou est-ce qu'on a encore un peu de chance à cette déclaration du cyberespace?
Elle était belle et puis en même temps, elle contenait déjà en germe certaines questions qui aujourd'hui nous rattrape, hein, le fait de penser un cyberespace en dehors de tout contrôle, que ce soit celui de l'État, en l'occurrence, ou des grandes entreprises, c'était aussi une utopie, en fait, qui a été rattrapée par la réalité et qui aujourd'hui conduit à des grands mouvements de centralisation. En fait, ce qui est marrant, c'est que chaque technologie nouvelle, en tout cas dans les réseaux, à chaque fois, les promesses sont renouvelées. Si vous voulez, quand on a déployé l'électricité, on a promis que ça permettrait aux petits artisans de se défaire des grands conglomérats, de gagner leur indépendance. Aujourd'hui, on fait les mêmes promesses avec la blockchain, la 5G, etc. Non pas qu'il faille rejeter tout ça, mais en fait, là-dedans, il y a une forme de déterminisme technique dans le sens où on préjuge qu'une technologie à elle seule va pouvoir permettre de faire, d'occasionner des changements qui sont de l'ordre du politique et qui dépassent de loin la question technologique. Nous, c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est qu'il ne faut pas prêter à la technique un pouvoir qu'elle n'a pas. Elle a certains pouvoirs, effectivement, on a un pouvoir sur le monde, un pouvoir pour modifier nos relations sociales, mais ça ne se fait pas tout seul, en fait. Le monde, il existe en dehors de Twitter, en dehors de la blockchain. Donc, pour répondre à ta question, il faut une complexification des enjeux. Et pour ça, c'est pour ça qu'on travaille, nous, c'est parce qu'on... Pour complexifier les enjeux, il faut faire plus que des déclarations, faire des sciences sociales, tout simplement. Et il faut aller voir concrètement comment la vie d'une caissière ou d'un caissier se transforme au contact d'une caisse automatique. Il faut voir comment une association utilise Facebook et en quoi ça l'aide ou pas à se faire entendre par les pouvoirs publics. Donc en fait, il faut regarder les choses de près. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller au plus près et sortir des grandes théories. Que ce soit des théories économiques ou des théories un peu vaseuses sur la technologie qui va tous nous libérer.
Et peut-être, sur cet aspect-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas aussi démunis qu'il n'y paraît. En fait, c'est qu'il y a plein de chercheurs qui ont fait ces travaux et du coup, c'est relativement bien documenté. C'est-à-dire, quand on regarde le coût écologique du numérique, par exemple, il y a nombre de rapports qui fleurissent sur le sujet. Quand on regarde, là, tu parlais des conditions de travail des caissières, il y a aussi eu des livres de sociologie qui sont sortis sur la question. Plus globalement, sur les sur les micro-travailleurs, par exemple, ou sur les travailleurs des plateformes, c'est aussi des réalités sociales qui sont documentées et connues. Et en fait, nous, ce qu'on a fait ici, c'est plutôt que de réinventer la roue, et j'allais dire, parce que comme le disait Irénée, là, ce qu'on a fait, ce n'était pas un travail de recherche, mais c'est plutôt une forme de compilation, ou plutôt d'état de l'art aussi, sur cet aspect-là précis, pour montrer que ces éléments-là, on les connaît. Donc, il y a aussi un peu cette question de se dire, maintenant, dans le débat public, alors que ces éléments-là sont connus, on ne peut plus avoir les mêmes promesses qu'avant. C'est-à-dire, quand on entend aujourd'hui encore ce mythe du « en fait, demain, l'algorithme, il va travailler tout seul de manière totalement automatisée et il n'y aura pas besoin de personnes derrière pour faire la maintenance et entraîner les intelligences artificielles », en fait, c'est faux. Enfin, voilà. Donc, c'est juste, j'allais dire... mettre un peu ces éléments-là dans le débat public pour élever le débat précisément et arrêter d'être dans ce mythe et ces fantasmes qui, en fait, là, ça fait 20 ans que les travaux montrent que
c'est pas le cas. C'est notre point de départ, en fait.
Et d'ailleurs, question pour vous à ce sujet, c'est-à-dire qu'on dit tellement souvent, en gros, moi ce que j'en sors, c'est que finalement la technologie n'est pas une fin en soi, c'est comment on peut l'utiliser. Et souvent, du coup, ce qui est assez nébuleux chez les GAFA, c'est qu'on ne sait pas réellement comment leurs algorithmes fonctionnent, en fin de compte. Donc, quid de la place de l'humain dans les technologies? Vous voyez les choses comment, ou comment vous conseillez de les appréhender?
En fait, il y a beaucoup de questions dans cette question. Je vais essayer de déplier au fur et à mesure. D'une part, la technologie, ce n'est pas seulement ce qu'on en fait. C'est aussi un point de départ chez nous. Ce n'est pas seulement l'usage qui est important. Elle n'est pas neutre. Quand on déploie une technologie, elle a des effets au-delà de ce qu'on croyait. Et même si on veut bien ou mal l'utiliser, il va se passer des choses qui sont plus ou moins prévisibles. Par exemple, c'est un cas qu'on explique au début du livre, quand on a introduit les machines à laver en Espagne, dans le nord de l'Espagne, dans les années 70, les femmes se réunissaient autour du lavoir pour laver le linge, créer une sociabilité entre femmes, pouvaient sortir du foyer pour constituer, disons, une vie communautaire féminine. La machine à laver arrive avec une vision individualiste du lavage. C'est très pratique parce que ça fait gagner du temps, en l'occurrence beaucoup aux femmes à l'époque. Cependant, ça conduit également à un repli en fait, dans la maison, tout simplement, dans l'appartement, et donc à un délitement progressif de ces espaces de sociabilité. Donc c'est complexe, en fait. Vous voyez, c'est pas toujours ce qu'on en fait. C'est comment on fait, la façon dont on fait, etc. Alors ensuite, la question partait sur les GAFA, mais je suis pas sûr que c'est forcément la même
question. Mais en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est cette question des usages. Je vais juste continuer là-dessus, parce qu'effectivement, alors, c'est un peu, le débat se polarise un peu là-dessus, qui serait, finalement, la technologie, c'est ce qu'on en fait. Enfin, elle est ni bien ni mal. Mais bon, en fait, voilà, l'exemple de la machine à laver, il est typique. La question, c'est pas comment on se sert d'une machine à laver. Enfin, y a un moment, en fait, il n'y a pas 10 000 usages de la machine à laver. En revanche, on aurait pu concevoir une autre machine à laver qui réponde, par exemple, à ce besoin, là, en l'occurrence, que dit Irénée, cette réalité en tout cas sociale qui est que les femmes, à un moment, se retrouvent à un endroit en collectif pour peser aussi dans la vie politique du village. Ça aurait pu être, par exemple, de penser des laveries communes, enfin, vous voyez, ou collectives, enfin, bref, il y a d'autres formes qui auraient pu être déployées. Et c'est un peu ce qu'on dit dans le livre avec cette notion d'affordance qui est utilisée par les sociologues et les ergonomes, où en fait, chaque technologie vous invite, donc c'est la notion d'affordance, à faire telle ou telle chose. Donc, par exemple, la machine à laver, effectivement, vous pouvez faire difficilement autre chose que de laver votre linge avec. Et dans un autre registre, avec des armes à feu, par exemple, l'affordance d'une arme à feu, c'est de tirer sur quelqu'un. Donc là, la logique de se dire, oui, mais en fait, ça dépend de quel usage on fait, c'est pas la bonne question.
Ça marche pas. Après, je précise au passage, on n'a pas écrit un bouquin sur Facebook ni sur Google parce qu'on considère déjà qu'on n'est pas les mieux armés pour faire ça. Je veux dire, entre Morozov, Shoshana Zuboff, Jen Shradi et d'autres, Zeynep Tufekci, il y a plein de gens qui ont écrit sur les réseaux sociaux et les interactions entre réseaux sociaux et démocratie. Nous, c'est pas là-dessus qu'on se focalise. On part du principe que ça, c'est déjà acté. Et j'ai envie de dire, de toute façon, c'est des problèmes dont on connaît les causes et qui sont déjà traités dans des sphères qui nous appartiennent malheureusement pas beaucoup, puisque forcément c'est les lois antitrust aux États-Unis. Donc on n'a pas voulu prendre ce prisme-là. C'est pas un travail qu'on a fait spécifiquement sur les GAFA, même si on en parle. Nous, les cas spécifiques qui nous ont intéressés, c'est deux questions déjà principales. La première, c'est comment on choisit collectivement des technologies dans le travail, dans la ville, à l'échelle d'une nation. Quelles sont les institutions démocratiques qui permettent de s'occuper de ça? Et qu'est-ce que ça dit de notre démocratie? Par exemple, le débat actuel sur la 5G, que dit-il de notre démocratie? Est-ce qu'on peut considérer que ce sera un choix démocratique? On vit dans une démocratie. Est-ce que le fait que la Convention citoyenne sur le climat ait été balayée ne risque pas justement de détériorer la capacité de ces mécanismes institutionnels qui sont au demeurant intéressants à changer les choses? La deuxième question qu'on se pose, c'est donc d'abord, premièrement, comment on choisit des technologies? Ensuite, comment certaines technologies peuvent améliorer, détériorer la démocratie? On va parler par exemple de, je sais pas, la reconnaissance faciale, l'usage sécuritaire, qui génère en fait une sorte d'inversion de la charge de la preuve dans l'espace public. On passe d'un régime inquisitoire à un régime accusatoire, c'est-à-dire qu'on va devoir se soumettre à l'autorité et au contrôle pour prouver qu'on est innocent. Alors, ça, c'est plutôt le système anglo-saxon. En France, il faut d'abord que quelqu'un, enfin, vous êtes coupable, vous êtes innocent jusqu'à présumer coupable, en fait. Donc, si vous voulez, c'est ces changements-là de contrat social, en fait, qui nous intéressent. Et donc, pour la reconnaissance faciale, c'est parfait, parce que la question se pose dans les deux sens. C'est que, d'une part, c'est une technologie qui est choisie de manière douteusement démocratique, contre l'avis des autorités de régulation comme la CNIL, par des maires qui font de l'insécurité leur cheval de bataille, sachant que c'est des notions pour celles qui sont très floues, et à côté de ça, qui sont financées par les pouvoirs publics et la BPI au mépris justement de la CNIL. Et deuxièmement, en retour, cette technologie va valider un horizon culturel qui est celui de la surveillance. Donc on a ces deux facettes-là. Comment on choisit et qu'est-ce qu'on choisit, ce qu'on choisit, quel effet ça a sur la démocratie? C'est ça qu'on pose, en fait.
Et du coup, là, je tire juste le fil. Ce qui est intéressant dans ce que Irénée vient de dire, c'est qu'on voit bien que la technologie telle qu'elle est développée n'est pas inéluctable. Et c'est, en fait, c'est faux de se dire, aujourd'hui, par exemple, la 5G, c'est forcément le choix du futur. Et en fait, s'il n'y a pas la 5G, il n'y a rien, il n'y a plus de futur. Le monde s'arrête et on revient à la lampe à huile. En fait, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire, la technologie, c'est bien sûr... Enfin, déjà, s'il y a des technologies, il n'y a pas une seule technologie. Et en fait, ces tissus, enfin, la forme qu'elles prennent, sont issus de choix économiques et politiques très, très concrets. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans le livre, c'est un peu de rentrer dans ce détail-là pour essayer de comprendre un peu comment sont prises les décisions et comment, à un moment, on arrive à une forme de consensus qui est, en fait, on n'a pas le choix d'y aller, alors même qu'il y a eu toute une chaîne de décisions qui a été faite.
C'est-à-dire que vous pensez clairement que, effectivement, c'est pas qu'il est possible de revenir en arrière, mais on réinterroge par la pédagogie, donc on accède à l'information, on décrypte, on comprend, et donc on peut agir sur le débat public en se réappropriant les connaissances et la culture. Et
En fait, on part du principe déjà qu'il n'y a pas de avant et d'arrière. la technologie, ce n'est pas quelque chose qui évolue linéairement à la manière des êtres vivants, même si ça suit des logiques internes, ce que Simondon appelle Gilbert Simondon, le philosophe, appelle le processus de concrétisation d'ailleurs. Mais à l'intérieur de ça, il y a plein de tractations possibles, de différences possibles. Au début du XXe siècle, quand on fait le choix du tout voiture, ce n'était pas un choix naturel, en fait. C'était un choix qui a été fait au moment où il y avait des compagnies de tram qui étaient en train aussi de chercher à gagner du terrain et qui ont été rachetées par les compagnies de voitures et complètement démantelées pour la voiture. Donc en fait, on a eu un choix qui était un choix pleinement politique qui a conduit à la civilisation de la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui finalement qui était au centre des critiques écologistes des années 70 avec des gens comme André Gorz et Yvan Illich. Donc pas d'avant, pas d'arrière déjà. Donc il n'y a pas de retour s'il n'y a pas d'avant et d'arrière. Typiquement, nous, on est critique vis-à-vis de la 5G, évidemment, alors sans tomber dans les théories complotistes, évidemment, mais il y a une question qu'on ne pose pas, par exemple, sur la 5G, c'est qu'est-ce qui se passerait si on ne la déployait pas? Où est-ce qu'on irait? En fait, cette question est un petit peu interdite. Mais il y a plein d'autres futurs possibles imaginables, et en fait, l'entrepôt des techniques nous le montre très bien, il n'y a pas de linéarité, il y a des luttes de pouvoir qui se jouent,
oui, voilà.
Qui donnent lieu, au bout d'un moment, à un objet. Et en fait, c'est ce qu'il y a derrière, ce n'est pas une question de pédagogie. Il ne faut pas expliquer aux gens ce qui est bien pour eux. Il faut écouter les gens. C'est ce que la sociologie des sciences nous montre depuis 20 ans. C'est qu'en fait, quand il y a des controverses techniques, donc quand il y a des conflits sociaux qui se cristallisent autour d'une technique, les OGM, le nucléaire, tout ce que tu veux, hein, et aujourd'hui la 5G, ce qui serait intéressant, c'est justement de confronter ces points de vue dans une arène démocratique qui, aujourd'hui, de notre part, est inexistante. Elle est inexistante parce que les institutions démocratiques telles qu'elles existent aujourd'hui ne permettent pas ce débat. On le voit bien, d'ailleurs, il n'a pas lieu. Il n'a pas lieu, en fait.
C'est par des grands, des pseudo-experts, et finalement, c'est oui ou non, il n'y a du coup pas de débat, en fait.
Oui, mais même institutionnellement, en fait, on ne l'a pas. Alors, on ne l'a pas avec ce gouvernement-là, mais de manière générale, on ne questionne pas la technologie parce qu'on part du principe qu'elle va dans un sens. En fait, elle ne va pas dans un sens. On a arrêté des technologies. Bruno Latour disait récemment, on a arrêté le Concorde pour d'autres raisons. On a arrêté le clonage humain, on a interdit aussi les mines antipersonnelles. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de faire autre chose, en fait, tout simplement. Donc ça interroge directement la notion de progrès et la notion de l'objectif socio-économique qu'on se donne en tant qu'être humain dans une société politique.
Parce que votre titre, il est quand même hyper fort. Technologie partout, ça, c'est clair. Et démocratie nulle part. Alors, juste pour ça, moi, il y a quelque chose que j'ai plutôt trouvé assez intéressant de la part de nos dirigeants sur cette idée de grand débat. C'est-à-dire qu'on vient insuffler finalement, alors est-ce que c'est de la com ou pas de la com, ça, c'est pas à moi de le dire, même si j'ai mon idée très claire. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait déjà de mettre à disposition une plateforme pour participer, ça va plutôt un peu dans le sens de la démocratie. Le fait en revanche qu'on nous impose l'utilisation d'une plateforme où on ne sait pas réellement qui est derrière, à qui appartiennent les données, ça, c'est un peu plus problématique. Du coup, vous là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est que, ok, il y a vraiment le côté très sociologique, mais de manière pratico-pratique, c'est-à-dire quel type d'outils, quel type de solutions, et notamment quand on voit une plateforme participative, bon, le grand débat, au-delà de tout ça, comment faire pour aider plutôt les élus, ou en tous les cas, ceux qui prennent des décisions, parce que là, clairement, si on parle de démocratie, il y a les citoyens, mais il y a aussi les personnes qui ont été élues. Résultat, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, ne serait-ce qu'un petit maire de 1500 habitants, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller pour insuffler ce genre d'échange?
Petit aparté, il faut bien retenir que le titre du livre, c'est une référence à Police partout, justice nulle part, donc c'est un côté punk qui nous a hérité de mai 68.
Et surtout, juste là-dessus,
qui s'appelle Plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. Il faut bien voir les deux aspects du livre, en fait.
D'accord.
Un côté provoque, évidemment, dans le titre. On ne dit pas qu'il n'y a pas de démocratie, on vit dans une forme de démocratie qui est de relative faible intensité, mais qui est quand même une démocratie. Juste pour faire juste une nuance par rapport à ça, mais tu peux répondre à la question.
Et peut-être deux points quand même sur le titre. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, technologie partout, démocratie nulle part, on l'a pris d'une pancarte qui était en manif. Donc, c'est aussi ça va dans, j'allais dire, ces mouvements de revendication dont on parlait au début, et du coup, du ressenti pour la population. Du coup, peut-être ce qui est intéressant quand même, c'est là où l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est croire qu'il n'y a jamais eu de concertation sur les nouvelles technologies, qu'il n'y a jamais eu de délibération et qu'en fait, c'est ce que s'appelle en fait la démocratie technique, ça n'a jamais existé. Si, ça fait 20 ans qu'il y a des expérimentations en fait là-dessus, et ce que nous disent en tout cas les chercheurs qui ont évalué ces processus, c'est qu'on remarque qu'en fait ces formats marchent, c'est-à-dire qu'à la fin, ces mini-publics qui ne a priori connaissaient pas la thématique, donc généralement c'était surtout dans le cas de la biologie de synthèse, par exemple. Enfin, donc, effectivement, des faits qui sont quand même très complexes. Mais donc, ces personnes-là, si elles sont bien formées, c'est-à-dire informées et formées sur une période longue, à la fin, arrivent à faire des recommandations, en tout cas, qui sont pertinentes d'un point de vue tant scientifique que politique. Donc ça, sur ce point-là, c'est…
Voilà, je précise juste, on parle bien ici, parce qu'en fait, il y avait encore une fois deux questions dans ta question, mais je dois redéplier. Toi, ici, tu nous as posé une question sur les plateformes utilisées par les maires. C'est une façon de voir la démocratie et la technologie, mais c'est vraiment comment j'anime une communauté à partir d'une plateforme. J'ai envie de dire, c'est un aspect qu'on traite, nous, à la marge. Ça nous intéresse parce que c'est comment j'utilise un outil, une plateforme pour faire démocratie. C'est simple avec ce genre de questions. On retombe dans les vieilles questions de la démocratie participative. C'est les gens qui participent sont toujours les gens éduqués, blancs, qui ont le temps, etc. En gros, c'est ça. Donc, ça ne se fait pas sans déployer des gens sur le terrain. C'est ce que fait la maire, par exemple, à Dacaulo, à Barcelone. Et là, ça marche relativement bien. Nous, notre question… c'est un peu ça, mais pas vraiment en fait. Nous, notre question, c'est comment on tranche sur des grands choix techniques en démocratie. Donc, ce n'est pas comment on fait la démocratie avec la technique, c'est comment on fait la technique avec la démocratie. Ce n'est pas la même question. Comment je choisis que je veux ou non la reconnaissance spatiale? Comment je choisis que je veux ou non la 5G? Comment je choisis quel algorithme me fait travailler au travail? Tu vois, c'est, en fait, on renverse un peu la question et c'est ça qui est original. Et donc, dans ce que vient de dire Gaël, le procédé que tu viens de décrire, c'est les… Ça s'appelle les conférences de consensus, en fait, ou les conventions citoyennes. C'est ce qui s'est passé pendant la convention citoyenne. On voit bien que ce qui a été produit de bonne qualité, ce n'est pas parfait. Ce n'est jamais parfait. Mais nous, ce qui nous interroge aujourd'hui, où une par une, ces recommandations sont balayées, c'est que d'une part, ça nuit à la démocratie. Et d'autre part, ça montre qu'en fait, que ça manque de. Ça ne crante pas avec les institutions. Donc, on fait des débats pour rien.
En fait, c'est ça. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on se rend compte que les résultats, j'allais dire, sont de bonne qualité, mais en fait, ces espaces délibératifs ne sont pas reliés aux instances de décision. Donc finalement, vous avez des espaces, comme dit la sociologue Sarah Aguiton, des espaces d'expression sans conséquences. Donc forcément, à la fin, déjà, ça produit quand même de la frustration pour des gens qui ont travaillé, si on prend l'exemple de la Convention citoyenne pendant 8 mois pour… qu'on leur dise à la fin, maintenant, faites du lobby pour faire passer vos idées. Enfin, c'était juste pas le deal de départ. Mais en plus, surtout que ça n'a aucun effet derrière sur les prises de décision. Alors, on va se dire, donc vous disiez, la question, c'était quand même quel conseil au maire. C'est possible de relier, surtout à une échelle locale, ces instances délibératives et c'est les instances de décision. Et là, ça me fait penser, mais tu vas m'y retrouver le nom de la ville, où il y a un maire qui s'appelle Joe Spiegel, qui en fait, alors je ne sais pas s'il a été réélu parce qu'il était à la fin de son mandat, mais pendant… Alors, je crois qu'il est resté très longtemps, en tout cas, maire d'une petite ville en Alsace, je ne dis pas de bêtises, enfin bref, et qui avait, en tout cas, une…
conception de la démocratie.
C'est ça, participative.
Et… Voilà, c'est Kingersheim.
Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, lui, par exemple, ce n'était pas spécifiquement sur les choix technologiques, parce que, bien sûr, là, nous, ce qu'on dit, en fait, c'est une question qui est aussi d'ordre plus général, mais il avait bien cette idée de faire des espaces délibératif. Donc, en plus, sur une petite commune, c'est encore a priori plus facile de mobiliser les gens, même s'il émet quand même des réserves sur le fait, comme tu le disais au début, c'est que tout le monde ne peut pas se permettre de se mobiliser. Enfin, ouais, y a des contraintes financières évidentes et de temps. Mais voilà, il a réussi à faire que ces instances délibératives soient directement reliées aux instances de décision. Donc là, ça se passe à un niveau très micro. Mais déjà c'est possible, donc c'est déjà bien de l'avoir en tête, mais en plus nous ce qu'on préconise, c'est que cette logique là enfin voilà, c'est de le faire aussi à d'autres échelles, puisque les choix technologiques se prennent à différentes échelles, donc à la fois dans l'entreprise mais aussi à niveau des municipalités et par exemple comme la 5G là à un niveau beaucoup plus national voire européen.
Et vous là-dessus dans le livre, vous mettez en exergue je reviens sur les conseils un peu pratico-pratiques, ça veut dire sur soit une manière de faire, soit pas forcément des outils à utiliser, mais des méthodes, des process qui permettraient justement d'acculturer et de faire, pas essayer d'aller dans le bon sens, parce que c'est pas une histoire de bon sens ou mauvais sens, mais de sensibiliser justement à une bonne approche.
En fait, si tu veux, la question, elle est… oui, on donne des pistes dans le livre. Nous, on donne des pistes qui sont de l'ordre du changement plutôt institutionnel. Après, on ouvre une question qui est anthropologique. Donc on ne peut pas non plus y répondre avec « faut faire du design thinking », tu vois, ce n'est pas possible. Parce que ce qu'on décrit dans le livre, c'est comment des choix sont volés aux travailleurs, aux citoyens, pour les livreurs, je ne sais pas, les caissières dont on parle aussi de la Smart City à Toronto. Tu vois, enfin, c'est des questions qui vont faire intervenir des projets technologiques qui traînent derrière eux 200 ans de capitalisme et d'une certaine notion du progrès qui nous est hérité du 19e siècle et de toute cette tradition positiviste et scientiste. Donc, en fait, on n'a pas fait un livre pratique sur que doit faire un maire. En revanche, ce qu'on dessine à la fin du livre, et là, ce n'est plus tellement nous qui parlons, c'est plutôt d'autres gens qui nous inspirent. C'est un certain nombre de pistes qui nous semblent intéressantes, qui ont été mises en place. Donc on prend l'exemple de Barcelone, où il y a une démocratie participative et des outils qui ont été utilisés comme Decidim à des fins démocratiques. On donne l'exemple de ce que fait Alexandre Monin, par exemple, qui est chercheur et qui, lui, a monté un master pour désinnover. On parle également des coopératives, mais si tu veux, si tu creuses la question, nous, on pose la question de la démocratisation tout court, en fait, aussi. Donc, comment on fait mieux démocratie? Si tu poses la question à l'intérieur d'une petite PME ou d'un gros groupe du CAC 40, tu peux nécessairement n'arriver qu'à des questions qui sont celles de la confrontation entre un modèle capitaliste et un modèle coopérativiste. Et là, tu tires 200 ans d'histoire aussi. Donc, faut pas s'attendre non plus à ce qu'on ait des méthodes ad hoc pour tout le monde. C'est plus compliqué que ça. En même temps, c'est plus ambitieux, et en même temps, comme c'est plus ambitieux, on y répond moins.
D'ailleurs, ce livre, vous avez eu, vous êtes mis sur la création de ce livre il y a longtemps, pendant le confinement ou après?
Ah non,
après,
bien avant.
Mais vous voyez le sens de ma question, c'est-à-dire que le sens de ma question, c'est de dire que là, qu'on le veuille ou non, les entreprises, les business, il y a un visuel qui dit finalement, c'est pas le directeur informatique, c'est pas le dirigeant de l'entreprise, mais finalement l'accélérateur de la transformation numérique, que ce soit une grosse boîte, une petite boîte, c'est le Covid. Certes, c'est encore un truc de marketeur ou de pubard, mais ça vous parle ou pas? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, la période un peu particulière qu'on est en train de vivre, au-delà du complotisme et de tout ça, est-ce que effectivement là aussi, ça n'a pas accéléré à la fois la technologie partout, parce qu'on a quand même perdu plus d'une quarantaine de libertés individuelles, et finalement la démocratie un peu moins?
Alors oui, ce livre, on l'a écrit, on l'a commencé avant, c'est des réflexions qui traînent depuis plusieurs années. Et quand on a rencontré cette période du Covid, du coup, on a été un peu déstabilisé, parce qu'au début, comme pour tout le monde, il y avait beaucoup d'incertitudes. On a beaucoup travaillé au mouton, justement, pour recenser les technologies de surveillance, donc on voit très bien ce qui s'est passé. Je crois que le phénomène d'accélération, il faudra voir avec le temps, c'est toujours délicat de se prononcer, on est en plein dedans, mais de fait, oui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, enfin ce qu'on voit, je peux parler pour nous deux, hein, beaucoup de réactions opportunistes en fait. Donc est-ce que c'est la technologie qui s'est accélérée ou est-ce que c'est des projets de numérisation par exemple de l'école qui étaient déjà bien enclenchés qui se font alors même où on manque de profs, ou moi dans le 9-3, ma fille a passé 3 mois sans instituteur l'année dernière. Bon, enfin, c'est pas une situation individuelle qui est forcément représentative, mais où l'état de la recherche est dans un état complètement piteux et les universités tombent en ruine et il faudrait faire des MOOC. Donc bon, oui, ça a été un accélérateur. Après, la vigilance qu'il faut avoir, c'est que oui, c'est une aubaine pour des entreprises qu'on était déjà en train de critiquer. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas forcément une situation qui est censée se normaliser. Donc oui, il y a un risque. Moi, c'est tout ce que j'en tire pour le moment, c'est qu'il y a un risque. Voilà.
Mais c'est que ce risque n'est pas seulement lié au Covid. Enfin, je vois, c'est quand même tous les cas de crise, quand même, ces dernières années. Plus globalement, ont été l'occasion de passer en force des projets qui étaient dans les tiroirs, et notamment, là, en l'occurrence, de technologie. Mais en revanche, là, ce qui est quand même important sur la période du Covid, et ça, c'était intéressant parce qu'on a eu quand même quelques demandes qui sont venues au mouton, par exemple, de personnes qui appartenaient à des instances représentatives du personnel et qui nous écrivaient en disant, en gros, notre entreprise, là, met en place un système pour... pour nous permettre de revenir travailler, en fait, et c'est un système technologique, un peu, j'allais dire, pour trier les salariés en fonction des réponses de leur situation de santé familiale, etc. pour en gros, voilà, ils avaient un jeton vert s'ils pouvaient circuler dans tous les bâtiments, un orange s'ils pouvaient pas, enfin bref, quelque chose comme ça. Et en tout cas, la personne nous a écrit pour savoir, bon, mais concrètement, moi, en tant que représentante du personnel, quelles questions est-ce que je dois me poser pour précisément évaluer cette technologie et savoir si ça va avoir un impact et du coup quel impact ça va avoir sur la vie de mes salariés. Et ça, je trouve que c'est une démarche qui est extrêmement intéressante parce qu'en fait, là, ce qu'on a vu, c'est à la limite qu'il y a des projets de numérisation et de technologie, enfin, tout n'est pas à jeter. Mais en revanche, ça a été fait, enfin, moi, pour en tout cas, pour des retours que j'ai eus, bien souvent dans des conditions totalement déplorables. Enfin, il y en avait, ils étaient en télétravail du jour au lendemain. Enfin, ça a été fait vraiment. Il y a eu aucune, enfin, déjà, aucune réflexion sur l'impact que la numérisation a eu sur les activités, quand même. Ni, enfin, vous voyez, c'était pas quelque chose. Et pas, là, c'est pas forcément une question d'accompagner le changement. Enfin, c'est vraiment de se dire, en fait, est-ce qu'il y a un moment, là, cette réalité-là correspond à l'activité qui est faite? Ou pas, quoi. Enfin, vous voyez, c'est
des impératifs éventuellement de sécurité. Donc oui. Là, en fait, ce qu'on dit, c'est que, tu vois, la question de comment on fait le choix d'une technologie, elle se pose dans une entreprise au niveau d'un CHSCT, par exemple. Donc, pour le rappel, hein, les CHSCT,
ou d'un CSE, c'est, maintenant.
Voilà, c'est les lois Auroux, hein, 82 en l'occurrence, donc un gouvernement de François Mitterrand qui dit que le travailleur doit être, entre guillemets, un citoyen dans l'entreprise. Donc, une grosse question sur comment on choisit démocratiquement, comment on fait des choix démocratiques en entreprise. Une entreprise, ce n'est pas une démocratie à proprement parler, mais c'est un endroit où il y a des contre-pouvoirs. Et donc là, on constate effectivement depuis plusieurs années un délitement de ces organismes comme le CHSCT, qui n'était pas parfait, hein, mais il faut voir qu'est-ce que ça produit chez les gens qui travaillent dans les entrepôts Amazon, en fait. Donc, ceci, ça, notre question, comment on en arrive à prendre des gens pour des robots dans des entreprises, à leur faire travailler avec des commandes vocales, qui crée tout un tas de problèmes psychosociaux. C'est vraiment très, très grave. En fait, on ne devrait pas accepter ça. Ça, c'est une question démocratique. Je pense qu'il faut l'ouvrir sous cet angle aussi de la démocratie en tant que contre-pouvoir et participation des salariés à leur quotidien, tout simplement.
C'est passionnant. Alors, pour finir sur une note plus légère, on avait une question plus légère, mais finalement, est-ce que l'amour sera plus fort que la surveillance de masse? Parce qu'on peut se dire que la démocratie a baissé les bras depuis quelques temps. Est-ce que vous avez encore un peu d'espoir, quoi?
On a beaucoup d'espoir, oui. Et on n'est pas démunis, et c'est ce qu'on explique dans le livre. On croit que certains mouvements sociaux, certaines recherches peuvent conduire à des changements, pas toujours pour les bonnes raisons. On explique, par exemple, il y a quelques semaines, là, suite aux manifestations antiracistes, suite à la mort de George Floyd, IBM et d'autres entreprises ont interdit la reconnaissance faciale à des fins sécuritaires. C'est triste ce qui s'est passé, c'est dramatique. C'est temporaire. Et donc, on peut gagner, entre guillemets, on a gagné contre des grands projets inutiles comme dans le triangle de Gonesse, avec des résultats derrière qui ne sont pas forcément super, mais donc, on peut faire des choses. Donc oui, on a de l'espoir, sinon on n'aurait pas conclu sur une note qui est, entre guillemets, positive. Après, je ne crois pas du tout que l'amour c'est quoi que ce soit à voir là-dedans. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'il faut de la démocratie, pas de l'amour. Et la démocratie, ce n'est pas fait forcément pour s'aimer, mais c'est fait pour trouver un endroit où on fasse autre chose que la guerre, en fait, tout simplement.
Vous pouvez nous rappeler la date du lancement de votre livre pour qu'on puisse,
c'est le 8 octobre.
Alors, c'est le 8 octobre. On peut s'inscrire sur votre site, Les Moutons du Web.
Alors, ouais.
Moutonsnumériques.org. Mouton-numérique.org, l'événement est en ligne, là, donc on n'a pas encore communiqué dessus. En fait, il y aura une soirée dans le 20e arrondissement.
Mais le livre est déjà en précommande sur le site de l'éditeur, donc c'est les éditions FIP, FYP.
Voilà.
Et ben, donc on va y aller. En tous les cas, merci infiniment pour votre temps, c'est super. Et puis, on viendra pour la soirée de lancement.
Cool, super.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bye bye.